CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAG. On vous détaillera le programme du festival de Keilus, 8e édition cette année. Ça commence ce vendredi et jusqu'au 7 août. Vous aurez dans tout le village du jazz, de l'opéra, de la musique orientale, de la musique classique. Des pointures vont faire le détour par Keilus, mais aussi à Saint-Antonin-Nobleval et à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue pour des concerts à prix libre. Vous saurez tout dans la deuxième partie de ce MAG. Avant ça, on vous propose de vous diriger du côté de Saint-Antonin-Nobleval en prévision de la prochaine conférence de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin. Ce sera vendredi prochain, le 7, et ce sera autour des Castrats, Bastide et leurs extensions en Bas-Quercy et Bas-Rouergue. Une conférence proposée par Éric Chabanne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en archéologie et c'était le sujet de votre thèse, je crois, à l'évolution des parcelles et des rues, plus particulièrement du côté de Sept-Fonds, Keilus, Nègrepelisse et Villefranche de Rouergue.
Tout à fait, exactement.
Vous partez du 12e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y en a des choses qui ont bougé, j'imagine.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, effectivement. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser assez souvent sur la période de fondation de ces agglomérations, et c'est notamment pour ça qu'on utilise ces termes de sauveté, castrat, etc. Mais effectivement, c'est des agglomérations qui ont énormément été transformées dans le temps depuis leur période de fondation, et puis il y a aussi une chose évidemment avant, qu'on ne connaît pas forcément, et jusqu'à notre époque actuelle.
Vous avez croisé des méthodes d'archéologie, des fouilles en archives et des études du bâti pour comprendre les mécanismes qui ont façonné le visage de ces six petites villes. Quels sont-ils, ces mécanismes, alors ?
Je ne peux pas tout résumer ici, mais il y en a énormément. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout d'essayer de montrer un certain nombre de types d'aménagements qui peuvent correspondre, par exemple, au percement d'une rue, à l'installation d'un lotissement, etc., à différentes périodes, et de les présenter, de montrer comment on les observe sur les plans, quelles sont les sources qui vont avec, qui nous expliquent comment ça a été fait, qui l'a fait, en combien de temps, et de regarder si je pouvais les comparer entre les différentes agglomérations. Et l'intérêt de le faire, c'est spécifiquement parce qu'on a beaucoup de données pour des grandes villes sur ce genre d'aménagement, sur ce genre de choses. Et on en a très peu sur des petites agglomérations. Et l'intérêt, c'était aussi de construire ce corpus d'aménagement pour ensuite proposer des comparaisons.
Alors, Sept-Fonds et Villefranche d'Aurore sont des bastides, hein, contrairement à Keilus et Nègrepelisse, par exemple. Déjà, je vois un gros point de différence, là.
Alors, Nègrepelisse est une bastide aussi, pour le coup. Et effectivement, il y a vraiment des manières d'aménager dès le début qui sont différentes. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a une bastide qu'on n'a pas avant quelque chose. Spécifiquement, par exemple, dans le cas de Sept-Fonds et de Nègrepelisse, on a des suspicions, on a des sources qui laissent penser qu'il y a eu des tentatives de fonder notamment des sauvetés avant. Donc c'est des indices qui sont très ténus, mais qui permettent au moins de réfléchir à cette idée d'une création ex nihilo pour les bastides. C'est l'intérêt d'arrêter de réfléchir en silo par un type de fondation, et vraiment de regarder juste une agglomération, comment elle a été fondée, quelles ont été les transformations dans le temps.
Eh bien, j'imagine totalement lié aux usages.
Donc il y a beaucoup de pratiques très locales dans la manière de... Il y a des pratiques locales dans la manière de construire l'urbain, mais effectivement, il y a notamment l'utilisation de l'espace urbain qui fait qu'on choisit d'aménager tel ou tel type de quartier ou telle rue à tel endroit. C'est vraiment l'usage qui crée la forme.
Lors de la conférence de vendredi prochain, initiée donc par la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, vous allez, j'imagine, vous baser et montrer au public présent des photos de ce qui vous aura intéressé, ce qui vous a amené à certaines pistes. Sur quoi vous vous basez? Comment est-ce que vous allez la rendre vivante et dynamique, cette conférence?
Alors effectivement, je vais présenter pas mal d'images, notamment des plans, parce que c'est un petit peu la base de mon travail. J'ai fait énormément de plans pour ma thèse, et mon objectif, c'est de montrer des plans qui, évidemment, ont plein de couleurs et qu'on a tendance à pas comprendre, et de les expliquer, de montrer ce que ça peut nous permettre de comprendre. Et donc, il y aura aussi des photographies, notamment de bâtiments. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi aussi, c'est que les personnes qui vivent dans le coin puissent s'intéresser aussi aux formes urbaines et re-regarder les plans de là où ils habitent et aller se balader et se dire, ah ben tiens, à cet endroit, effectivement, il y avait peut-être une rue à un moment où là, les bâtiments, ils ont été construits pour ça. Voilà, j'aime que les gens réfléchissent aussi à l'endroit où ils vivent.
Et c'est justement l'objectif de l'ensemble des conférences proposées par la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin, transmettre des connaissances et mieux faire connaître l'histoire de notre région. Là, pour votre conférence, Éric Chaban, autour des Castras, Sauveté, Bastide et leurs extensions entre Bakercy et Barouergue, entre le 12e et le 15e. Alors j'ai mentionné donc Sept-Fonds, Caylus, Nègrepelisse, Villefranche, et je crois qu'il y en a deux autres dont on n'a pas parlé là. C'est quels autres petite ville.
Je vais également parler de Najac et de Villeneuve-d'Aveyron.
Conférence vendredi 7 août à 18h, hein, comme toutes les conférences de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin à la mairie dans la salle des congrès. Comme toutes les conférences, l'entrée est libre et c'est vous, Éric, qu'on retrouvera au micro. Je rappelle que vous êtes docteur en archéologie. Un grand merci.
Merci beaucoup à vous.
Your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. Wrong or resolute, but in the mood to obey. Station to station.
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag où on vous propose le détour par Caylus à partir de là, ce vendredi, pour l'ouverture du festival de Caylus. À partir de ce 30 juillet jusqu'au 7 août, tout nous est proposé par Pierre Tillois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur, vous êtes fondateur de ce festival de Caylus. C'était il y a une dizaine d'années déjà. Et pour nous présenter tout le programme, vous êtes venu accompagné d'un pianiste, du pianiste Adrien Vezard. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut, avant de détailler toute la programmation et de parler de l'ouverture, donc de ce vendredi, parler du contexte dans lequel ce festival a été mis en place? Et qu'est-ce qui vous a amené ici à Caylus? Qu'est-ce qui vous porte?
C'est toujours une petite histoire assez amusante. Le festival a été créé alors de manière très concrète. Il a été créé entre Paris et Kiev dans un avion Air France. Tout est parti de là. Je suis venu ensuite à Caylus, j'ai regardé, on a commencé à travailler sur le festival. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une espèce d'utopie, une espèce de rêve. On s'est dit, voilà, il y a des choses, il y a des endroits qui sont saturés de tout et il n'y a plus rien qui existe. Et il y a des endroits qui sont magiques où on a l'impression que tout peut exister et surtout les rêves. Et c'est ce qui s'est passé à Caylus.
Non, dans l'avion, en allant à Kiev. Qui avait à côté
Mais après, il y avait une transformation. J'étais dans le cockpit. Tout simplement.
J'ai besoin de savoir.
Non, j'étais dans le cockpit et voilà, j'étais invité au cockpit et j'ai discuté. Il y avait donc le propriétaire du château. Et c'est de là que tout est parti.
Du château de Caylus.
Exactement.
Pourtant, vous n'allez pas jouer dans le château pour cette édition.
Non.
Mais vous allez traîner un petit peu partout dans les ruelles médiévales.
Voilà, l'idée c'est vraiment que de prendre le village de Caylus comme étant la scène. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai imaginé que Caylus était notre scène, tous les endroits. C'est pour ça qu'on joue au lavoir, sous la halle médiévale, devant la mairie pour la clôture. Et après, on va un peu irriguer autour, on va à Beaulieu pour l'ouverture, qui est un très bel endroit qui nous accueille, et qui est une manière aussi de dire... de loin, venez à Caylus, venez nous voir. Voilà, qu'est-ce qu'on fait encore?
Le lac
fait,
de la Barthe.
Exactement, le lac de la Barthe, là, c'est devenu la traditionnelle soirée de jazz. On va aussi à Saint-Antonin, puisqu'il y a un orgue, un très bel orgue qu'on utilise. Voilà, on essaye de créer un aimant avec nous et de tout ramener sur Caylus.
Du jazz, de l'orgue, du yoga sonore. C'était pas un Caylus classique à la base?
Alors, c'était à un moment, sur une édition, vous êtes bien renseigné, hein, sur une édition, ça a été Caylus classique. Mais le problème de Caylus classique était, il y a des gens qui nous disent, ah oui, moi je préfère le jazz. Et on disait, mais oui, il y a aussi du jazz. Et donc on s'est dit, on va revenir aux fondamentaux, Festival de Caylus, qui permet d'avoir de tout, de la musique classique, du jazz, de la musique baroque, pourquoi pas de la gastronomie, on a eu de la littérature, on a innové l'année dernière en lançant quelque chose autour du yoga sonore qui a marché, enfin c'était presque, on était nous-mêmes étonnés de nos expériences, et donc on reconduit cette année avec le yoga sonore, avec un violoncelliste et une derviche tourneur. Voilà, enfin c'est d'appréhender un peu et la culture et le monde différemment, et de nous dire, en fait, pour que nous, les artistes, on existe, on a besoin du public. Et le public, pour rêver, a peut-être besoin... Nous, on espère qu'il a besoin de nous. Et le meilleur moyen, c'est de se trouver dans un endroit qui reste humain. C'est pour ça que Caylus, c'est magique.
Vous avez parlé derviche tourneur. C'est une derviche tourneur, ce qui est assez exceptionnel. Et vous ramenez l'Orient jusqu'à Caylus. C'est un croisement que vous nous proposez.
Oui, ça, alors c'est plus que l'Orient que je ramène. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait plus de 30 ans que j'ai la chance d'être un très très grand voyageur. Enfin, je passe ma vie à voyager. Et depuis 30 ans, je travaille... Pourquoi, je ne sais pas, je travaille vraiment sur la route de la soie. Donc je la connais par cœur, j'y habite même, puisque maintenant j'habite au Kazakhstan. Et en fait, il y a un vrai problème qui n'est pas que Est-Ouest, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'Orient-L'Occident qui a... Mais l'Orient-Occident est peut-être la cristallisation du problème des relations humaines, à savoir que comment construire s'apprécier les uns les autres quand on se connaît pas. Et alors Est-Ouest, ça fait une espèce de caricature un peu manichéenne, mais c'est aussi comment on se conduit avec les autres quand on les connaît pas. Et ben on essaye de découvrir leur culture, et après les choses marchent vachement mieux si on admire la culture de l'autre. Il y a de fortes chances que l'autre nous apprécie sans savoir qui on est, et du coup on crée quelque chose de. En fait, l'idée, c'est de créer une culture profondément humaine.
Et pour ça, vous invoquez des musiciens parisiens, notamment. Vous faites venir du beau monde, là, à Quélus, pour donner à voir aux habitants et aux touristes de passage tout un programme concocté par vos soins. Et donc, on va terminer par la fin, et donc par votre concert, Adrien, c'est Verdi.
Oui, c'est Verdi. Alors, ce sera pour la soirée opéra. Je me trompe, Pierre.
Complètement.
Oui, je me trompe. C'est le dernier concert.
Il y aura du Verdi. Non, en fait, c'est surtout là, c'est un truc incroyable, c'est qu'on va jouer le concerto en sol de Ravel devant la mairie de Quélus. Avec, alors, bien sûr, on peut pas amener le grand orchestre. Donc, je me suis dit, mais moi, c'est ici que je veux jouer le concerto de Ravel. J'ai dit, Adrien, t'es partant. Et il m'a dit oui. Il me dit, il est fou. Donc, on jouera. Adrien va jouer le concerto de Ravel vendredi prochain, le 7, avec un quatuor à cordes. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un arrangement, une transcription. Et on aura aussi une surprise en la personne de Kenza Vela Lopez, qui est une B-girl, une danseuse urbaine. Qui a chorégraphié le concerto. Donc, c'est-à-dire aussi, tout à l'heure on parlait Est, Orient, Occident, mais en fait c'est aussi l'idée, c'est aussi d'admirer la culture des autres. C'est pas parce que moi je suis un compositeur de musique classique, mais j'admire tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ultra fort dans la hip-hop, je suis épaté, je me dis waouh, j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien savoir. Et c'est pour ça que j'invoque aussi, et j'aime inviter des jeunes, parce que c'est important, et de donner une chance aux gens de faire ce qu'on ne leur donnera pas forcément à Paris, parce qu'il y a une file d'attente gigantesque, et puis il y a de l'entre-soi, etc., qui bloque beaucoup de choses. Et ici, on est seul à décider, et donc on peut faire des choses miraculeuses.
Du hip-hop à un grand orchestre, donc un grand orchestre, c'est 80 musiciens, là vous allez être combien?
Alors on va être 9 pour ce dernier concert, parce que Pierre a arrangé en fait le concerto de Ravel. Donc je me mélange.
Totalement.
Je me mélange.
9 c'est l'ouverture.
Et oui, 9 c'est l'ouverture.
Et la clôture, vous serez 6.
Et là, et
le concerto de Ravel à 6, c'est ça.
Alors à 6, parce qu'il y aura un quatuor à cordes qui va donc faire office d'orchestre, une B-girl et un pianiste. Ça fait donc 6. Pour le concerto.
Et 7 avec Ravel, qui est invoqué.
Et 8 avec Pierre, qui a arrangé, quand même.
Alors, la clôture, donc, j'ai dit Verdi, parce que là, il y a la Traviata, il y a la danse macabre, et il y a le concerto en sol de Maurice Ravel, tout ça, là, dans la même soirée. Vous avez mis dans une boîte, vous avez secoué.
Oui, mais c'est important, parce qu'en fait, c'est le... Enfin, moi, je suis compositeur, donc quand je dis compositeur vivant, en général, ça fait peur aux gens. Même les artistes, hein. Adrien, tu me...
Terrifiant.
Oui, parce qu'on est on est devenus des espèces d'ayatollah de la pensée musicale, et c'est pas forcément ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent des tubes. C'est-à-dire que quand il y a une chanson qui marche, il faut se poser la question pourquoi elle marche. La musique classique, on a exactement la même chose. Et là, dans ce concert final, on a fait une espèce de feu d'artifice, le concerto de Ravel, qui est un monument, enfin, qui est un chef-d'œuvre mondial, la danse macabre. Alors, la danse macabre, c'est un petit clin d'œil, c'est mon fils adore, et donc j'aime bien la programmer pour mon fils. Mais après, il y a la Traviata, et puis après, il y a d'autres surprises. Il y a une musique qui avait été la seule musique que Patrick Dupont avait chorégraphiée, sera jouée aussi le soir-là, c'est Larmes et Flammes, enfin bref. C'est comment retisser du lien et de montrer que les compositeurs de la musique classique ont encore leur place aujourd'hui dans notre monde.
Ils l'ont, ça ce sera la soirée de clôture, donc le 7 août, la veille. Ce sera des mélodies d'amour d'hier et d'aujourd'hui, de Berlin à Broadway. Ce sera du côté du Lavoir de Quélus. On aura encore précédemment un amour d'opéra sous la halle médiévale, et puis du jazz, du vrai jazz sur le marché de Quélus, des cordes et clarinettes, le derviche tourneur accompagné d'un violoncelle. Ce sera ça le 2 août au lac de la Barthe. Et je fais les choses dans l'ordre inverse, pourquoi pas.
Mais c'est vachement bien,
on change. Le 1er août, c'est-à-dire ce samedi, ce sera le concert d'orgue du côté de l'église de Saint-Antonin, Nobleval, avec aussi du jazz. Et l'ouverture, c'est donc là, c'est ce vendredi, c'est bien le 31 août. Ce sera du côté de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. 31 juillet, pardon, ouais. L'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, monument national donc de Ginals, qui accueille encore le festival de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Et l'ouverture, c'est La Lumière exilée. C'est une pièce. Bon, on va terminer là-dessus. Il nous reste quelques minutes pour aguicher les gens au maximum, là, pour leur proposer de venir. Il y a du monde sur scène. Il y a de la lumière, de la danse, de la musique. Il y a tout ça.
Et non seulement il y a ça, mais il y a aussi des musiciens extraordinaires. Et en fait, c'est plus que des musiciens. C'est des. Enfin, dans Sama, La Lumière exilée est une pièce qui invoque en fait le talent le plus profond de chaque musicien qui y participe. C'est-à-dire qu'il y aura des musiciens iraniens. On a une mezzo-soprano iranienne. On a un chanteur et percussionniste iranien, Habib Mefta, qui est un monstre, enfin, qui joue sur toutes les scènes du monde. Rana Gorgani, une derviche tourneur, il y en a trois dans le monde, qui sera là à Kélus, qui fera un atelier donc, le dimanche matin au lac, qui est une femme extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez voir tout d'un coup, elle va se mettre à tourner. Et les derviches tournent 9 minutes en moyenne. Elle va tourner une heure. Et c'est juste, en fait, on recrée une espèce de force centrifuge de l'univers. Et voilà, et c'est l'Orient, l'Occident qui se mélangent, mais c'est aussi le Nord, le Sud, c'est la musique traditionnelle orientale avec la musique classique, avec la musique contemporaine, mais aussi avec des rappels. Par exemple, il y a des moments où on entend l'utilisation du sound design comme au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une bande-son pour créer quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une forme que j'invente, que j'appelle les songes musicaux, c'est-à-dire un rêve éveillé. Et c'est un rêve éveillé dans lequel tout est possible, et surtout que tout le monde puisse faire des choses ensemble. Je pense que c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est de dire c'est pas raisonnable au XXIe siècle, la guerre c'est pas raisonnable. Donc en fait, le meilleur moyen d'arrêter les guerres, c'est de se connaître les uns les autres, de s'admirer, de s'apprécier, et s'il y a quelque chose qui nous va pas, d'en parler, mais pas de sortir une arme et de se tuer, quoi. C'est notre vraie puissance des artistes, c'est de se battre avec des idées, des mots, et ça fait pas de mal, quoi. Ça au contraire, ça embellit la société.
Les amener partout, ces mots, ces idées, à disposition là, du côté d'eux, Kélus, ou plus particulièrement pour Sama, La Lumière exilée, à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. C'est une pièce que vous avez déjà proposée, où il y a beaucoup plus de monde d'habitude, je crois.
Alors c'est une pièce qui existe. Il y a plusieurs versions. Il y a une version avec un grand orchestre de 60 musiciens, mais il y a une version aussi qui existe avec un orchestre de 110 musiciens. Et pour le festival de Kélus et aussi le festival de Beaulieu, puisque c'est une coproduction entre nos deux festivals, on s'est entendu sur deux festivals. C'est à noter parce que très souvent on pense qu'on est en concurrence, mais non, justement. Là, avec Christopher, on a dit il faut qu'on travaille ensemble. On ne peut pas se faire de la concurrence.
De toute façon, il n'y a pas deux dates ensemble.
Non, mais on a fait attention. C'est-à-dire que, vous voyez, on fait attention à ça. Et donc là, Christopher nous accueille au festival, dans son festival à Beaulieu. Donc notre ouverture est dans son festival, ce que je trouve très beau comme principe. Et voilà, donc il fallait quelque chose de fort. Et donc voilà, on ouvre avec un rêve.
Eh bien, je vais vous ramener durement à la réalité en vous demandant combien ça coûte et comment on s'inscrit.
Ah, alors, il suffit de venir. Alors, pour Beaulieu, c'est la billetterie, ça c'est Beaulieu, c'est directement sur Beaulieu. Et après, ça c'est une question très intéressante, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de... Depuis le début, on se pose la question de la billetterie. On nous dit c'est trop cher, d'autres c'est pas assez, etc., etc. Donc l'année dernière, on a commencé à travailler sur le principe « pay what you want, pay what you can ». Payez ce que vous voulez, payez ce que vous pouvez. Et même là, on s'est rendu compte que c'était compliqué pour les gens. C'est-à-dire qu'en France, dans notre mentalité, on a un véritable problème existentiel avec la place de l'argent. En fait, il y a un côté qui est très très compliqué en France, et je le vois vraiment autant partout, c'est la question de l'argent, on la pose, point barre, on passe à autre chose. Ici, il y a presque un regard philosophique, il y a un truc qui fait que, voilà. Donc on a dit, on va faire des chapeaux. C'est-à-dire qu'il y aura une billetterie pour le dernier concert, comme d'habitude, et puis le reste, c'est... au chapeau et payez ce que vous voulez. Et c'est vraiment le tarif, c'est payez ce que vous voulez. Si vous pouvez mettre 1 euro, mettez 1 euro. Si vous pouvez mettre 200 euros, mettez 200 euros.
Ouverture là, ce 31 ce vendredi à l'abbaye de Beaulieu en Rouergue. Pour tout le reste, eh ben, faites le détour par Caylus et récupérez les petits flyers colorés. On parle du festival de Caylus, 8e édition créée il y a 10 ans, parce que oui, effectivement, il y a les deux années où il ne s'est rien passé.
Avec une affiche dessinée cette année par un très grand dessinateur de BD, Marc-Antoine Boisdin, qui rejoint l'équipe du festival en nous offrant une affiche. On en était très fiers.
Du dessin, donc, de la danse.
De l'affiche.
De la danse et surtout beaucoup, beaucoup de musique, du jazz, de la musique classique, de l'opéra.
Beaucoup d'amour.
Bon, voilà. Pierre Tilloet, vous êtes le compositeur fondateur de ce festival. Merci beaucoup. Et
merci,
vous en parliez aujourd'hui avec pianiste Adrien Avezard, que vous avez invité à nous proposer le concert de clôture. Ce sera le 7 août. Un grand merci aussi.
Merci.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 18h et à 21h. Vous pourrez, comme de coutume, le réentendre en podcast sur notre site cfmradio.fr. La suite, ce sera depuis CFM Montauban avec Rémi. Ce sera juste après les infos. Pour maintenant, ne bougez pas.